Alors, nous recevons maintenant, comme chaque mois, la médiatrice de Radio France. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jacques Monin.
Alors, vous relayez les critiques des auditeurs pour que nous puissions y répondre. Et apparemment, vous avez reçu pas mal de mails concernant l'enquête que nous avions réalisée sur le rôle de l'extrême droite dans le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, beaucoup de mails. On commence avec les remarques de Quentin. En écoutant ce reportage, écrit Quentin, je me demande dans quelle mesure les opinions politiques du journaliste influencent l'angle du reportage. En effet, je ne vois pas en quoi aller sur le terrain à la rencontre des Français et de leurs revendications est taxé de récupération. N'est-ce pas justement le rôle des élus de prendre en compte l'avis des citoyens et de s'appuyer dessus pour mener une politique en adéquation avec l'intérêt général ?
Alors si, on peut dire que le rôle des politiques, c'est effectivement d'aller sur le terrain et d'écouter ce que dit la population, ça j'en conviens. Mais le rôle du journaliste d'investigation, c'est aussi d'aller voir ce qu'il y a derrière les apparences. Vous avez un discours qui est celui de dire que ce mouvement est un mouvement apolitique. Alors c'est vrai, à la base, il l'est. Enfin, je veux dire, c'est un mouvement qui rejette toute forme de représentation. Mais il ne faut pas se tromper non plus. Derrière ça, il y a aussi des partis politiques qui, eux, essayent de voir comment est-ce que je peux me positionner pour tirer profit ou pas de ce mouvement. Et certains le font mieux que d'autres. Et c'est vrai que, on l'a constaté, et là ce sont des faits, le Rassemblement national était présent sur le terrain, mais ça va beaucoup plus loin, avait même théorisé la manière dont il devait être présent sur le terrain pour pouvoir accompagner ce mouvement sans pour autant se faire rejeter. Ça passe d'abord par un positionnement qui est, et ça c'est le Rassemblement national qui le dit, assez subtil, c'est-à-dire être présent mais ne pas afficher ses opinions politiques, ne pas non plus s'afficher dans les médias pour ne pas être taxé de récupérateur, mais on cultive même un double langage, puisque sur le terrain, il y a un certain nombre de thématiques que les élus mettent volontairement de côté pour ne pas se faire rejeter. Par exemple, on ne parle pas d'immigration. L'immigration, c'est une thématique qui fait partie de la rhétorique du Rassemblement national. Et on va le faire quand même sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur d'autres canaux. Bon, c'est intéressant, c'est notre rôle de décrypter la manière dont les choses se passent. Après, vous parliez du rôle du politique qui est de prendre en considération les aspirations des gens. C'est une évidence, mais ça pose quand même aussi là des questions particulières. C'est-à-dire, est-ce qu'un parti politique, c'est un parti qui est là pour proposer une vision de la société qu'il veut transformer conformément à ce que sont ses valeurs, ou est-ce qu'un parti politique, c'est un objet opportuniste qui va sentir l'air du vent, l'air du temps, pour récupérer ses revendications et ensuite les faire siennes, tout en sachant qu'il y en a un certain nombre qu'il ne pourra pas appliquer. Après, chacun se fera son opinion, mais là, c'est plus notre propos.
Un autre auditeur se montre également critique et ironique. Voilà une belle publicité pour le Rassemblement national. Je ne comprends pas que vous n'ayez pas encore compris que plus vous matraquez le Rassemblement national, plus il en sort renforcé, surtout venant de journalistes de France Inter qui soupirent en appuyant sur des reportages à charge. Bref, vous faites l'inverse de ce pourquoi vous pensiez faire ce reportage.
Alors, il me semblait qu'on ne matraquait pas dans cette émission, qu'au contraire on exposait des faits et qu'on le faisait avec une certaine distance. En exposant d'ailleurs la pluralité de points de vue, puisqu'on entendait y compris des élus du Front National en on, et avec d'autres élus qui, eux, sont dans l'entourage de Marine Le Pen, qui, eux, parlaient en off. Donc, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait matraqué quoi que ce soit. Après, la question, c'est est-ce qu'on regarde les faits en face ? Est-ce qu'on regarde les choses en face ? Est-ce qu'on considère que ce parti a une influence, pèse un certain poids, développe des idées, et est-ce qu'on les questionne ? Après, ça a sans doute des conséquences, oui, mais notre travail, encore une fois, c'est d'informer, c'est pas de nous taire.
Sur le sujet, on termine avec la réaction de cet auditeur qui s'interroge « Est-ce bien honnête d'avoir cité dans votre introduction l'extrême gauche et l'extrême droite et de ne développer que l'extrême droite ou est-ce simplement votre obsession de désinguer encore Jean-Luc Mélenchon et les gens de son parti ? Sans arrêt, on entend les extrêmes comme si Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'était le même combat. »
Bon alors attention, on n'a pas d'abord cité l'extrême gauche et l'extrême droite en les mettant sur un pied d'égalité dans l'introduction. Ce qu'on a entendu, c'est un élu de terrain disant qu'effectivement lui sentait monter le mouvement des Gilets jaunes, qu'il essayait de prévenir ses collègues, y compris à gauche, qu'il ne sentait pas ce que lui ressentait, alors que le Rassemblement national, lui, avait même anticipé ce mouvement. Et c'est pour ça qu'on s'y intéressait. D'ailleurs, ce n'est pas une obsession anti-Front National. Hein. C'est juste que quand vous regardez les faits, vous vous rendez compte que les autres partis sont passés à côté, en tout cas au départ. Donc à partir de là, forcément, on va s'intéresser plus particulièrement à ce parti parce que c'est celui qui a le plus de poids dans ce mouvement, qu'on le veuille ou non, même si ce mouvement, et je le répète, et je l'affirme, n'est pas un mouvement d'extrême droite, et ça a été dit dans l'émission. C'est pas ça notre propos. C'est un mouvement pluriel, extrêmement complexe, qui a d'ailleurs profondément évolué, qui traduit une fracture profonde. Enfin, tout ça, ça a été dit. Après, obsession de désinguer Jean-Luc Mélenchon, on va pas y revenir, on en a parlé 100 fois dans cette émission depuis une enquête qu'on avait consacrée effectivement à Jean-Luc Mélenchon. On enquête sur tout le monde, tout le monde. On n'a pas d'obsession particulière. Cela dit, on est sur un terrain de toute façon où quoi qu'on fasse, on sera l'objet de critiques. C'est-à-dire, si on parle du Front National, on nous reproche d'en faire trop. Si on parle de l'extrême-gauche, on nous reprochera de stigmatiser l'extrême-gauche. À partir du moment où on essaie d'investiguer sur un terrain politique, bah, c'est extrêmement difficile de trouver la bonne mesure qui fasse qu'on soit dans l'exposition des faits et l'incitation à la réflexion de ceux qui nous écoutent, sans tomber effectivement dans l'opinion et dans l'orientation des opinions. Bon, autre sujet que vous souhaitez aborder, Emmanuel ?
Oui, alors on a reçu des remarques d'auditeurs, des témoignages sur votre enquête sur les implant files. Le témoignage notamment d'une auditrice porteuse d'une prothèse texturée, plusieurs fois changée depuis une reconstruction mammaire après un cancer découvert à l'âge de 35 ans. Voici ce qu'elle nous écrit. Je suis en colère d'entendre sur France Inter un témoignage, certainement poignant mais tout particulier. Le problème des prothèses texturées dont on parle en ce moment n'a pas à voir avec le risque d'une prothèse qui se rompt et qui diffuse du silicone dans le corps. Ce sont des problèmes différents. Avez-vous conscience de la bombe que vous lancez pour les 500 000 porteuses d'implants mammaires? Allez-vous leur proposer, après vous avoir entendu, de se rendre immédiatement chez leur chirurgien pour se faire retirer leur prothèse? L'information que vous avez diffusée à l'antenne est partielle et inutilement anxiogène.
Alors, il y a deux questions. Là, il y a la question d'abord de la rupture de la prothèse. Est-ce qu'effectivement, la rupture de la prothèse est la cause du lymphome ? Et en fait, non, ce n'est pas la rupture de la prothèse qui est la cause du lymphome. Puis après, il y a la question de l'information anxiogène. Alors, sur la première question, Élodie Guéguin, puisque vous aviez travaillé sur ce sujet-là, si on a diffusé le témoignage de Laetitia, c'est parce que son lymphome, il est bien dû apparemment à la texture de sa prothèse et pas à l'accident qu'elle a vécu.
Oui, en fait, c'est vrai que le cas de Laetitia est très particulier parce que Laetitia a eu deux problèmes distincts mais simultanés. Et c'est ça qui peut, à l'écoute, peut-être perturber un peu nos auditeurs. Laetitia, elle a d'abord reçu un choc dans la poitrine qui a provoqué une rupture de sa prothèse. Le silicone s'est répandu dans son corps, ce qui a causé chez elle d'intenses douleurs. Elle a dû prendre de la morphine, de l'opium. Elle a été suivie par des médecins. Et là, on a découvert qu'elle avait développé ce fameux lymphome, ce cancer qui touche désormais 59 personnes en France. On ne sait pas ce qui est à l'origine du lymphome. Certainement pas la rupture de prothèse, mais en tout cas, on n'a pas d'éléments aujourd'hui à ce stade. À ce stade, on ne peut pas dire ce qui cause le LHC.
Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que Laetitia, c'est un cas parmi d'autres. Il y a effectivement une soixantaine de femmes aujourd'hui en France qui ont contracté ce LHC. Il y a une forte suspicion pour que ce soit lié effectivement à la texture de leur prothèse mammaire. Alors à partir de là se pose la question de est-ce qu'il fallait en parler ou pas ? Est-ce que 60 femmes sur 500 000, c'est suffisamment significatif pour effectivement faire peur aux gens ? Parce que c'est ça la question qui est posée. Réponse, Élodie ?
Écoutez, ça fait 10 ans qu'on parle de ce lymphome anaplasique en France. Les autorités sanitaires n'ont pas pris de décision pendant 10 ans d'interdire, pas d'interdire. Il a fallu quelque part les implant files auxquels on a participé pour mettre un peu ce sujet sur la table, pour le mettre en lumière. Donc oui, je pense qu'il fallait en parler, même si ça concerne très peu de femmes en France, pour peut-être faire avancer les choses.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de victimes qu'on a rencontrées nous disent qu'à aucun moment on leur a dit qu'il y avait le moindre risque avec leur prothèse macro-texturée. Au contraire, les médecins leur disaient, mais non, il n'y a strictement rien. Alors que si, il y avait des cas de LHC qui existaient en France.
Et pour répondre aussi à notre auditrice qui dit, est-ce que vous conseillez aux femmes d'aller voir leur chirurgien et pourquoi pas de se faire explanter, vous vous rendez compte que tout ça, c'est quand même très angoissant. Non, évidemment, l'idée, c'est pas de conseiller à ces femmes d'aller faire des explantations préventives parce qu'elles portent des prothèses mammaires allergantes. En revanche, de se faire surveiller. On a vu aussi dans le cadre de notre enquête que normalement, une femme qui porte des prothèses, que ce soit après un cancer ou pour des raisons esthétiques, doit se faire surveiller tous les ans. Et la plupart des femmes qu'on a rencontrées, elles, n'étaient pas allées voir leur chirurgien depuis 5, 6, 7 ans.
Oui, puis on peut se dire que si effectivement au moment de la pose de la prothèse, on leur avait dit, bah oui madame, il est possible que dans le pire des cas, il y ait un cas sur 3000 de lymphome, de cancer lié à la pose de ces prothèses. Mais avec un suivi, vous ne risquez rien, mais ça reste très marginal. Ces femmes auraient pu effectivement faire leur choix en conscience, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Alors qui a tort ? Celui qui révèle ou celui qui n'a pas informé ? Ça, c'est une bonne question aussi, Emmanuel, qu'on peut se poser. Bien, alors Emmanuel, on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. On vous retrouve le mois prochain, donc début avril, pour de nouvelles interpellations de nos auditeurs qui d'ailleurs peuvent vous écrire, on peut le rappeler.
Oui, absolument. Hein. Les auditeurs peuvent m'écrire à l'adresse mediatrice.radiofrance.fr et puis aussi, ils peuvent s'abonner sur nos comptes Twitter, Facebook, Instagram pour retrouver toutes les informations sur la médiation à Radio France et donc peuvent m'interpeller autant qu'ils le souhaitent.
Parfait. Merci beaucoup, Emmanuel, et à très bientôt.